content d'aller avec vous dans le psaume 107. C'est tellement un beau psaume. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, dans cette journée que le Seigneur nous a donnée, pour l'adorer, pour se réjouir en lui, le célébrer. Et c'est un moment tellement important dans la parole. Pourquoi? Parce que on chante la parole, on prie la parole. Mais je crois aussi que le Seigneur dirige à travers le ministère de sa parole l'exposition systématique des Écritures. Et ça fait partie aussi de comment vraiment le Seigneur nous unit, parce qu'il renouvelle notre intelligence, il transforme notre façon de penser à travers le ministère de sa parole. Et vu que, disons, que c'est une direction qui est donnée par le Seigneur à travers sa parole, j'essaie vraiment d'être à son écoute pour ce qu'il y a pour nous autres. Mais ça a vraiment un effet, et moi je dis depuis les années, je vois vraiment la transformation du ministère de la parole à travers les années. Et à Dieu soit la gloire, c'est pas à cause du prédicateur, c'est pas à cause de l'instrumentalité humaine, c'est vraiment le Seigneur, Dieu le Saint-Esprit qui nous dirige, puis qui... C'est lui qui nous enseigne, hein? C'est ça la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas ce que la Nouvelle Alliance nous dit, que tous seront enseignés de Dieu. Et donc, si Dieu ne nous enseignait pas, ça serait du vent. Tu aurais beau avoir le plus éloquent des prédicateurs, la plus systématique des expositions de la parole de Dieu, ça serait en vain. Et donc, gloire à Dieu. Et on a lu ensemble l'ensemble du psaume 107, mais là, pour se remettre dans le bain, on va lire les 9 premiers versets, OK? Donc, le psaume 107, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon. » Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Merci Seigneur, tu nous donnes ce temps. En toute simplicité, Seigneur, on te demande simplement de nous enseigner, de faire fructifier, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. C'est la semence vivante et incorruptible. Donc, on sait que tu vas faire pousser ta vie, des choses bonnes, Seigneur. Et je te prie même que pour toute personne qui écoute ce message, qui ne te connaîtra pas encore personnellement par Jésus, le seul sauveur, je te prie que ta parole germe dans le cœur et produise la vie. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas puissent naître de nouveau. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, on désire te connaître, t'aimer Jésus, te connaître, comme l'un des cantiques qu'on chante. Et donc, Seigneur, on s'en remet à toi, au nom de Jésus. Amen. Ce psaume... Moi, je dirais que c'est probablement dans le palmarès le top 10, le palmarès des favoris de beaucoup ici. Et j'en suis, je l'ai dit tantôt. Pourquoi? Parce que ce psaume nous rejoint. Ce psaume nous rencontre dans la réalité vécue. C'est plein d'histoires, de choses qu'on peut vivre. Bon, peut-être qu'on ne va pas souvent sur la mer, mais des fois, il y a les tempêtes de la vie, des fois. Peut-être qu'on n'est pas dans un désert à pas manger, mais des fois, on sent que notre âme soupire après Dieu. Puis, OK, donc, on peut vraiment se reconnaître dans ce psaume. Et notez qu'il y a des répétitions, il y a vraiment des patterns. Disons que c'est un psaume assez prédictible. C'est un psaume qui... à dessein et répétitif. Ça fait partie de ce qu'il veut amener. Mais la bonté de Dieu est ce qui est révélé de façon principale sur le caractère de Dieu. On sait que la Bible, c'est la révélation de qui Dieu est. Bien ici, vraiment, ce qui est mis de l'avant comme révélation du caractère et des actions de Dieu, c'est sa bonté. Par exemple, regardez verset 8, « Qui loue l'Éternel pour sa bonté » pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Donc, sa bonté, c'est son caractère. Ses merveilles envers les fils de l'homme, c'est ses actions de bonté. C'est le fruit de sa bonté. les choses bonnes qu'il fait envers nous. Et ce même pattern du caractère bon de Dieu, c'est de ce pattern qu'émanent toutes les bonnes actions qu'il peut faire. Et je dirais que de là aussi, un autre, hey, là je vais vous sortir un beau mot, là. Je vais faire mon pense-bon. Savez-vous c'est quoi un leitmotiv? C'est une phrase répétitive, c'est quelque chose qui se répète dans un texte. Et donc, ce psaume est rempli de leitmotivs, donc de phrases qui se répètent. Et l'une de ceux-là, c'est « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel ». Quatre fois, au verset 6, au verset 13, au verset 19, au verset 28, on voit cette phrase. D'où le titre simple de ce message, « Invoquer Dieu, source de bonté ». Car le psaume 107 est une illustration, ou si vous voulez, une amplification de ce qui est donné dans le psaume 86, les versets 5 à 7. « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de la détresse. » Car tu m'exauces. Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Oups, excusez, je suis en train de répéter. Quand j'ai fait copier-coller, ça a fait double copier-coller. Des fois, ça fait ça. Mais c'est ça. Donc, on voit vraiment que c'est ce qu'on va développer dans ce message. On va explorer ensemble notre accès à la bonté de Dieu. Mais avant, j'aimerais qu'on définisse un peu les termes. La bonté de Dieu, c'est son caractère même. Comme Dieu est amour, ben Dieu est bon, c'est ce qu'il est, c'est ce qui caractérise sa personne, mais aussi ses œuvres. Tout ce qu'il fait est bon. Et donc, on pourrait dire, pour définir la bonté de Dieu, Dieu est d'une excellence morale impeccable, d'une beauté de caractère parfaite. Et ça fait en sorte que il a une disposition et des actions envers sa création qui sont bonnes, et ça bien au-delà de ce que nous méritons. Sa bonté n'est pas selon ce qu'on mérite, elle est selon ce qu'il est. Il est bon, donc il fait le bien. Dieu, à cause de ce qu'il est, il dit « Je veux être généreux envers toi. Je suis heureux, je suis motivé à déverser sur toi ce qui te rend heureux, ce qui te fait du bien. Pas parce que tu le mérites, mais à cause de ce que moi je suis. » OK? Et c'est certainement vrai pour ses enfants, ceux qui sont rachetés par le sang précieux de Christ. Mais la Bible nous dit que Dieu même a cette grâce envers même ceux qui ne le connaissent pas. Il fait tomber la pluie, il fait briller le soleil autant sur les bons que sur les méchants, sur les justes que les injustes. Et donc, Dieu, sa bonté, comme on le voit ici, hein, Dieu est bon, sa miséricorde dure à toujours. Et sur une note personnelle, j'aimerais juste vous dire que ce message, le Seigneur me l'a donné dans un temps de prière où est-ce qu'il m'interpellait à simplement être reconnaissant pour sa bonté. Parce que le Seigneur me rappelait... Comment je peux facilement la prendre pour acquis? Tu sais, des fois, on s'habitue, puis on trouve que ça, c'est normal. Puis le Seigneur me dit, hey, t'as peu, là, le fait que je suis bon, là, c'est pas rien. En fait, c'est toute qu'une affaire. Or, reviens-en pas. Tu sais, des fois, on dit à quelqu'un, reviens-en. Là. On ne devrait pas prendre pour acquis la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus merveilleuse qu'il a envers nous autres. Il est bon. Et... c'est la clé, lorsqu'on est reconnaissant envers la bonté de Dieu, la clé pour y accéder, c'est simplement d'invoquer Dieu, notre source de bonté. C'est aussi simple que, tu sais, quand on dit être reconnaissant, le mot reconnaître, c'est comme connaître de nouveau. Reconnaître, connaître à nouveau, avec une nouvelle fraîcheur, une nouvelle réalité. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Tout le monde dit, on peut dire que, ah oui, Dieu est bon, puis... Dieu, c'est sûr, j'apprécie le fait que ce soit bon, mais comme dirait l'annonce de Corn Flakes, on veut y goûter encore pour la première fois. Rafraîchir, faire un refresh de la bonté de Dieu. Et avec simplement trois réactions face à la bonté de Dieu, trois réactions à la bonté de Dieu. D'abord, dans les versets qu'on a lus, les versets 1 à 9, spécialement 4 à 9, on voit la première réaction, c'est de répondre par la foi à la bonté de Dieu. Remarquez comment ça dit dans les versets 4 et 5, ils erraient, ils souffraient. Et à la fin du verset 6, ça dit que Dieu les délivra. Et au verset 9, ça dit qu'il les a satisfaits. Il les a satisfaits, il a comblé leur âme. C'est un peu comme ça dit dans le psaume 13. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » J'ai confiance à ta bonté parce que c'est comme ça, à cause de ce que t'es, que tu fais du bien. À cause de ce que t'es, ça va donner ce que tu fais. Et donc, c'est ça, répondre par la foi à la bonté de Dieu, c'est espérer, c'est-à-dire s'attendre avec confiance à ce que Dieu manifeste sa bonté. Parce que, vu que c'est ce qu'il est, tôt ou tard, ça va se traduire dans ce qu'il fait. En fait, ça se traduit toujours dans ce qu'il fait, mais peut-être pas toujours aussi vite qu'on voudrait ou de la façon qu'on voudrait, mais ça va arriver. Et c'est pour ça que la foi est tellement importante. La foi, la confiance. Pourquoi? Parce que la foi, écoutez bien, change la souffrance en délivrance. Regardez le verset 6. « Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et les délivra de leur angoisse. » Et aussi, ça change l'errance en abondance. Ça nous dit au verset 4 qu'ils erraient dans le désert, ils ne trouvaient pas de ville où habiter, mais au verset 9, ça dit « Il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Et donc, c'est la puissance transformatrice de la foi. Lorsqu'on s'accroche à Dieu, lorsqu'on tourne vers lui les regards, lorsqu'on l'invoque, Dieu répond. Comme ça dit dans le psaume 84, « Car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. » Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Donc, la réponse de notre foi à la bonté de Dieu, c'est de croire à la réalité que Dieu, à cause qu'il est bon, il y a des plans bienveillants envers ses enfants. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, mes amis, c'est à l'inverse. C'est à l'opposé du mensonge d'Éden qui va dire « Vous serez comme des dieux ». Le fait de croire à la bonté de Dieu, c'est de se placer en position de dépendance. Tout ce qui est bon, ça ne va pas venir de moi. Ça va venir de Dieu. Mais le mensonge d'Éden, c'est « Non, non, tu peux faire de quoi de bien ». Le mensonge d'Éden nous amène à être autosuffisant, à voir qu'on n'a pas besoin d'une autorité au-dessus de nous autres parce que l'autorité est vue comme malveillante. C'est quoi que Dieu a fait? C'est quoi que Satan a fait dans le jardin d'Éden? Il s'est attaqué à la personne de Dieu dans sa bonté. Non, Dieu n'est pas vraiment bon. Ce n'est pas une autorité bienveillante. C'est le mensonge d'Éden. Puis quand on avance dans ce mensonge-là, ben si je ne crois pas à la bonté de Dieu, ben il faut bien que moi je m'arrange avec mes affaires puis que j'essaie de me tirer d'affaires puis de faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais ça, c'est l'incrédulité. On va voir ça dans le prochain point. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait dans le récit de la création? Il met de l'avant sa bonté. Parce que à cause qu'il est bon, tout ce qu'il a fait, c'est quoi qu'il dit? Comment il a qualifié ce qu'il a fait? Chaque journée, il dit « c'est bon ». Puis à la fin, il fait l'homme et la femme. Puis qu'est-ce qu'il dit? C'est très bon. Donc, voyez-vous la démonstration de ce qu'on voit? À cause que Dieu est bon, tout ce qu'il a fait, c'était bon. Il met ça de l'avant. C'est pour ça que Satan, aussitôt qu'il se pointe dans le jardin, c'est à ça qu'il s'attaque. Non, Dieu n'est pas vraiment bon. Il veut te cacher quelque chose. Tu manques le party parce que Dieu est en train de faire de quoi qui n'est pas vraiment bienveillant. Et ça, c'est important, mes amis. On a un principe biblique ici. Mais Dieu met de l'avant sa bonté pour contrer le mensonge et pour nourrir la confiance, la foi dans sa bonté. Quand vous avez de la misère, que vous avez l'impression que tout s'écroule, que les choses ça marche pas, nourrissez-vous de la bonté de Dieu. Restez les yeux fixés sur sa parole qui nous amène à tout le temps voir comment Dieu il est bon, comment Dieu transforme le mal en bien, comment toutes ses œuvres sont pleines de bonté. Dieu il est bienfaisant, il est bienveillant, tandis que L'incrédulité, c'est la folie de la destruction. Là-dessus, j'ai quelque chose qui est une grande vérité que vraiment le Seigneur, à travers les deux dernières années, a beaucoup mis de l'avant. Disons que dans les deux dernières années, j'ai eu des chocs confrontationnels. Avez-vous déjà eu ça avec quelqu'un? Des fois, quand on dit en anglais, we butt heads. Quand on. Comme des béliers, là, punk, qui se cognent la tête, là. Avec certaines personnes. Mais sur cette question spécifique. Là où est-ce qu'il y avait un fort désaccord, jusqu'à. Ça pouvait être très émotivement chargé. Entre la question de s'attendre à Dieu, espérer à sa bonté, versus agir, prendre les choses en main. Voulez-vous que je le dise autrement? Se prendre pour Dieu. Parce que quand il y a des situations problématiques, et où mon espérance, et où mon réflexe, la réponse de la foi, là, c'est Dieu, je ne veux pas agir. Je sais que la chair ne sert à rien. Je sais que si moi je prends les choses en main, ça va être pire. Là, c'est pas facile d'avoir la foi. Là, l'avoir la foi, là, c'est quelque chose qui est. Ça a l'air vraiment, ça n'a pas de bon sens. Ben là, voyons donc, tu vas laisser les choses rempirer. Non, mais je crois que Dieu est vivant, puis je m'attends à lui. Ça peut être paniquant d'attendre Dieu quand tout va mal, là. Il y a eu des moments, là, spécialement en 2022, que, ouh, mes amis, c'était pas évident, mais je vous assure que lorsqu'on s'attend à Dieu, qu'on espère en sa bonté, on choisit la bonne part. Que Dieu, il va intervenir. Puis je vous le dis, avec les événements qui sont arrivés, Dieu a démontré, a prouvé qu'il est bon, qu'il nous aime, qu'il s'occupe de son Église, s'occupe de ses enfants. Puis Dieu est vivant, puis il intervient. Quand on s'attend à lui, c'est pas en vain. Dieu secourt ceux qui tournent vers lui les regards. Et l'issue de ces situations... En simple, c'est vraiment la différence entre expérimenter la grâce et la bonté de Dieu versus se priver de la grâce de Dieu. Et c'est pas une mince affaire, parce que on va y arriver dans un instant, mais c'est vraiment ici la manière par laquelle le Seigneur va révéler soit notre foi, notre humilité ou notre orgueil et notre incrédulité. C'est pas ici qu'il y a une catégorie dans l'Église. Ah, ça, c'est les humbles et les gens de foi, puis ça, c'est les orgueilleux et les incrédules. Je veux dire, on lutte tous de différentes manières, puis on branche tous de différentes manières, mais on a le choix. Puis ça s'apprend, la réponse de la foi. Quand Dieu nous envoie des choses, quand arrivent des situations, Dieu veut qu'on exerce notre foi en toute simplicité, en toute humilité. Et savez-vous, ironiquement, il y a une ironie là-dedans dans notre réaction à ce que Dieu envoie, dans le fait qu'on croit à sa bonté, c'est que les personnes les plus sujettes à ne pas répondre par la foi à ce que Dieu envoie, à ne pas croire à la bonté de Dieu, c'est les personnes les plus motivées à rechercher ce qui est bon, puis à combattre le mal. Je dis c'est ironique, mais c'est pas un hasard. Parce que soit que j'essaie de faire le bien, puis de convaincre le mal, ou je crois que Dieu est meilleur que moi. Pensez-vous que Dieu est motivé à combattre le mal, puis à rechercher le bien? Puis il est bien meilleur que nous autres. Non seulement il est motivé, mais il est bien meilleur que nous autres. Et mes amis, si j'essaie de prendre la place de Dieu, ben je me prends pour Dieu. Oui, j'attriste l'esprit, mais je retombe dans le jardin avec le fameux arbre du bien puis du mal. J'essaie de faire le bien, puis j'essaie de me détacher du mal, au lieu de laisser Dieu, de choisir la vie et de laisser Dieu le faire. C'est ça la nouvelle alliance, Christ en nous, c'est Dieu qui agit en nous. Et faites-vous-en pas, si je fais confiance à Dieu, Dieu s'occupe du bien et du mal. Ma réaction, la première, c'est la plus importante, répond par la foi, la confiance. Est-ce que j'ai confiance dans la bonté de Dieu? Ça m'amène au deuxième point, les versets 10 à 22. Et la deuxième réaction qu'on peut avoir, et c'est positif ça aussi, c'est se repentir de l'orgueil et de l'incrédulité face à la bonté de Dieu. Ici, on a deux exemples, parce que vous savez, dans le psaume, il y a quatre situations qui sont présentées. Ici, on en a deux, dans les versets 10 à 22. Et remarquez le verset 12. Ici, avec ceux-là qui avaient pour donneur les ténèbres et l'ombre de la mort, ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Puis regardez ce que ça dit au verset 12. « Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. » Connaissez-vous Romains 2, 4? « Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Ici, on a les mots « Il humilia leur cœur par la souffrance. » Je crois que cette simple phrase « Il humilia leur cœur par la souffrance » c'est la plus grande des grâces de Dieu. Lorsque Dieu humilie notre cœur par la souffrance, c'est une grâce. Mais malheureusement, c'est une grâce qui est négligée, voire peut-être méprisée à cause de notre chair. Hein? Notre chair n'aime pas souffrir. Donc, si Dieu nous humilie le cœur par la souffrance, ben on regimbe. Hein? Mais la chair, elle fuit la souffrance comme la peste. La chair ne reconnaît pas, ne croit pas que la souffrance est la voie vers la gloire. Et là, je vais vous amener ce point-là avec une couple de versets. Gardez votre place ici dans le son. Tournez avec moi dans Hébreux 2. Puis pendant que vous tournez là, je vous lis une couple de versets pour vous appuyer le fait que c'est un pattern biblique que la souffrance, c'est la voie vers la gloire. N'est-ce pas ce que Christ lui-même a dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? Christ, il a fallu qu'il passe par la croix pour pouvoir aller dans la gloire et avoir toute la gloire qui allait venir après. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Nous aussi, on est appelés à souffrir. Mais vous allez voir que ce n'est pas sans but. Vous êtes là dans Hébreux 2, le verset 10. On va prendre le temps de le lire ensemble. Hébreux 2, 10. « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, » ça, c'est pas nous autres, là, c'est Dieu, « et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Remarquez, « élever à la perfection par les souffrances. » La souffrance dans la vie de Christ a eu un effet de perfectionnement. C'est ce qui l'a amené à la gloire. Christ était déjà parfait, mais il a obéi en toutes choses. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans la gloire. Et pour nous, on a le même pattern. C'est-à-dire, regardez aussi Hébreux 5. Vous êtes dans Hébreux, tournez au chapitre 5, verset 5, verset 7 pardon, à 8. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Christ devait passer par la souffrance. C'était la voie vers la gloire. D'où le ministère béni, si vous retournez avec moi dans le psaume 107, le ministère béni du brisement. J'ai vérifié le mot, c'est un mot, ça se dit, brisement. Regardez psaume 107, verset 16, « Car il a brisé les portes de rein, il a rompu les verrous de fer. » Comment Dieu brise les portes de rein dans notre vie, les verrous de fer? Très souvent, mes amis, c'est à travers la souffrance. Pensez aux souffrances, vous avez vu comment il y a eu un effet libérateur. Lorsqu'on a la réponse de la foi, là, parce qu'on peut se rebeller, on peut répondre par incrédulité, mais lorsqu'on s'attend à Dieu, on expérimente, et là j'ai une autre expression, Dieu le briseur. Savez-vous que c'est un titre? C'est un titre messianique. En anglais, c'est plus clair, ça dit « the breaker », mais je vous lis Michée 2,13, qui est un verset messianique. « Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Celui qui fait la brèche, le briseur, le brècheur, ça se dit mal, là. Mais c'est vraiment l'idée, c'est qu'il brise, il fait un passage. En anglais, on dit « he's breaking through ». Tu sais, il brise pour faire un passage. Hein?
Il défonce.
Il défonce, ouais, il défonce. Ouais, merci, c'est le bon mot. Le défonceur. Puis, ça, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que regardez verset 17, là, tout le monde est venu en psaume 107. Là. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Il y en a-t-il ici qui peuvent s'identifier à ceci? Comment que souvent, dans notre folie, on est les architectes de notre propre malheur? Parce que dans notre orgueil et notre incrédulité, on pense mieux savoir, on pense mieux faire. Et donc, c'est bon d'expérimenter le brisement de Dieu. Écoutez le psaume 119, versets 67 et 68. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » Dieu, il est trop bon pour nous laisser nous autodétruire. Il est trop bon pour nous laisser nous égarer, nous laisser emporter dans notre folie. Puis regardez le verset 20. « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper à la fosse. » Dieu, il guérit, il délivre. Mais pour ça, ça l'exige qu'on se repente. Qu'on se repente de notre orgueil et notre incrédulité. Parce que Dieu, la seule façon de lui plaire, la seule façon que Dieu, on peut le laisser agir dans notre vie, c'est par la foi et l'humilité. Donc ça veut dire qu'il faut que je me repente de mon désir de vouloir prendre les choses en main, de me prendre pour Dieu dans ma vie et dans la vie des autres. Il n'y a pas d'autre façon. Et c'est pour ça que la souffrance est si importante. Quand on parle de Dieu le briseur, là, ben, ou le défonceur, l'un des instruments qu'il utilise beaucoup, c'est la souffrance. Et là, je vais vous dire une phrase, écoutez bien. La communion de la gloire de Christ doit passer par la communion des souffrances de Christ. J'ai l'impression de vous dire qu'il y a une autre façon, là. Mais savez-vous qu'on a pas mal vu un pattern biblique? La communion de la gloire de Christ doit passer par la communion des souffrances de Christ. Pourquoi? Parce que la mort et la souffrance, c'est la voie ou la porte vers la vie et la gloire. Amen. Et cette vie et cette gloire, elle traverse, elle fait une brèche à travers notre instinct de préservation. Lorsque Dieu me permet de souffrir, lorsque Dieu m'abaisse, ça l'abaisse ma capacité à vouloir m'en sortir. Je ne suis même pas capable. Donc, c'est bon parce que Dieu brise ma capacité, brise mon autosuffisance. Puis là, ça lui permet de lui se glorifier à travers moi. Sa grâce est suffisante dans la faiblesse. Et sinon, la chair ne sert à rien. Elle détruit, elle amène la mort. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre possibilité. La gloire doit passer par la souffrance. Et donc, ça veut dire quoi de se repentir de notre orgueil et de notre incrédulité face à la bonté de Dieu? C'est se repentir de soi, de ma volonté, de ce que moi je veux faire, de mes voies, de mes patterns, et de laisser Christ et son esprit qui a répandu son amour dans mon cœur, dans le cœur de ses enfants, de le laisser vivre et se manifester. Parce qu'il y a un contraste entre l'amour christique et le soi. L'amour recherche la vie. Elle recherche la vie où? Hors de soi, en Dieu. En Dieu est la source de vie. C'était un des thèmes cette année. Mais le soi, le moi, recherche la vie en soi-même. L'amour sacrifie l'égocentrisme pour obtenir la provision de Dieu. Non pas moi, mais Christ qui vient en moi. Tandis que soi veut se préserver soi-même et sacrifie l'amour de Dieu et refuse de souffrir pour le bien et le péché des autres. Le soi ne veut pas souffrir. Il ne veut pas souffrir ni pour lui-même, ni pour les autres. C'est pour ça que c'est bon quand Dieu brise, parce que Dieu brise ses patterns destructeurs. Et Dieu est tellement bon parce que c'est lui qui opère cette délivrance dans nos vies comme ça à travers, oui, la souffrance. Et combien ici peuvent dire aussi que c'est comme ça qu'ils sont arrivés à connaître Jésus comme leur sauveur? Ça commence à être un verset connu. Je suis content quand j'entends des gens qui nous citent comme ça. Job 36,15. Quand Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Combien souvent on arrive à des points dans nos vies où est-ce qu'on est au bout du rouleau? C'est les meilleurs rendez-vous divins. Et pour certains, c'est la façon aussi qu'ils ont connu le Seigneur. Moi, c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur, pas parce que j'allais mal dans le sens que j'ai été malade, j'ai fait un accident, mais ma vie avait pas... Je me suis rendu compte, c'est quoi le but de la vie? J'allais mal de façon existentielle. Et c'est bien ça de se rendre compte que la vie n'a pas de bon sens, parce qu'effectivement, la vie sans Dieu, une créature sans son créateur, ça marche pas, là. J'aime ça faire des casse-têtes. Dans le temps des fêtes, moi, j'ai comme une espèce de tradition, là. Je fais des casse-têtes. Mais c'est deux pièces de puzzle qui ne marchent pas ensemble. Puis Dieu nous a fait, tu sais, on est créature, créateur, ça va ensemble. Fait que c'est bien comme ça quand que Dieu nous place en situation de dépendance. C'est pour expérimenter sa bonté. Ça m'amène à la troisième réaction qu'on peut avoir face à la bonté de Dieu. On peut répondre par la foi, on peut se repentir de notre orgueil, mais troisièmement aussi, on peut se reposer dans la bonté de Dieu face à l'adversité. Et ça, c'est dans les versets 23 à 38. On ne relit pas tous les versets parce qu'on a tout lu, puis ça serait un peu trop long, mais ici, c'est ceux qui... c'est les marins. Les marins qui ont été dans la tempête de la vie, disons. Et les choses n'allaient pas bien pour eux autres. Et je fais le parallèle ici avec le psaume 31, versets 20 et 21, qui dit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi un refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente, contre les langues qui les attaquent. » Il y a des tempêtes ici sur les flots. Des fois, il y a des tempêtes de la vie. Des tempêtes de... Des fois, c'est la santé. Des fois, c'est des relations. Il y a toutes sortes de tempêtes que le Seigneur peut permettre dans notre vie. Mais savez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, on peut se reposer dans la bonté de Dieu, même face à l'adversité. Lorsqu'on expérimente la foi, la réponse de la foi face à la bonté de Dieu, qu'on se repent de notre orgueil et notre incrédulité, le résultat, c'est quoi? C'est le repos. C'est le refuge dans la tempête. Et ça, c'est illustré dans les versets 23 à 38. Mais regardez, par exemple, le verset 28. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. » Ça, c'est une des phrases qui est répétée à travers le psaume. Mais remarquez que ici, c'est une tempête physique. Okay? Il y avait des flots mugissants et tout ça. Mais l'effet était spirituel. Des fois, Dieu permet qu'il arrive des choses dans le monde physique, dans notre vie. Mais Dieu, c'est nos cœurs qu'il calme. C'est dans nos cœurs qu'il enlève l'angoisse. Dieu agit dans au-delà du domaine physique. Puis quand je dis physique, pensez pas juste à des choses qu'on peut toucher. Bon, des fois, ça peut être des relations avec des personnes, OK? Donc, des choses et des personnes. Puis regardez ce que ça dit ensuite au verset 29. « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. » Donc, ça, c'est le produit, le bénéfice spirituel, le renouvellement spirituel que Dieu apporte à ceux qui se reposent en lui, qui tournent vers lui les regards. Verset 30, « Ils se réjouissent de ce qu'elle s'était apaisée. L'Éternel les conduisit au port désiré. » Voyez-vous comment c'est une image de calme. La tempête est passée. N'est-ce pas que ça fait du bien? Des fois, on a des tempêtes dans la vie, puis je veux dire, on ne court pas après la souffrance. On sait que Dieu est celui qui nous amène dans des moments comme ça. Mais ça nous fait encore plus apprécier être au port tranquille. Et il y a des saisons de la vie de main. Il y a des saisons tumultueuses, il y a des saisons calmes. Mais Dieu, dans toutes les saisons, est toujours notre repos, notre refuge. C'est ça qu'il faut voir ici. Ici, je pense qu'il faut simplement voir les choses comme étant le repos de la foi. Et c'est quoi le repos de la foi? Est-ce qu'on se repose jusqu'à ce que la tempête est passée? Ou est-ce que c'est possible de se reposer dans la tempête? Oui, parce que dans la tempête, qu'est-ce que la foi, à quoi la foi regarde? Quel est le refuge de la foi? C'est se rappeler que Dieu transforme le mal en bien. Que l'histoire qu'on vit, c'est pas terminé. Que même si ça va bien, ça va pas bien, c'est pas la fin de l'histoire. Et que tout ce qui arrive là, qui fait pas nécessairement du sens, Dieu est en train de faire conquérir tout ça pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est ça que la foi se ramène constamment. C'est ça le repos de la foi. Que même quand tout brasse, on peut se reposer. OK, Dieu est bon, là. OK, ça arrive, là, mais Dieu n'a pas arrêté d'être bon. Puis Dieu, à cause qu'il est bon, il permet que ça brasse. Fait que même quand ça brasse, on peut se reposer. C'est ça que la foi permet. Parce que elle ne se repose pas dans ce qui se passe, mais dans ce que Dieu est. Et Dieu ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit dans Malachie, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu est toujours bon. Dieu change toujours le mal en bien. Puis s'il l'a fait dans le passé, il va le faire encore. Dieu est le seul qui a le pouvoir de changer le mal en bien. Et ça, mes amis, c'est la cure parfaite à la malédiction d'Éden. Pensez-vous que Dieu n'avait pas dit son dernier mot quand j'ai dit, il a mis de l'avant sa bonté dans le récit de la création. Satan s'est attaqué à lui en disant, non, Dieu n'est pas vraiment bon. Pensez-vous que Dieu allait dire, ah là, j'ai été vaincu par Satan, c'est vrai, là, tout le monde va penser que je ne suis pas bon. En fait, Dieu a tellement tout viré ça de travers pour exalter encore plus sa bonté. Puis, dénoncer aussi tout le mensonge et la destruction du mal. Dieu, vraiment, il a transformé de façon ultime. Là, on voit le grand dessein de la rédemption. C'est la cure, se rappeler comment la bonté de Dieu, parce qu'on peut dire, hey, pourquoi Dieu a permis qu'il y ait Éden? Pourquoi qu'il y a eu la chute? C'est donc bien poche, puis ça a donc bien été mal à partir de ce moment-là. Effectivement, je pense qu'on peut tous être d'accord ce matin. Ça a pas mal viré au vinaigre depuis la chute, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas arrêté d'être bon. Dieu n'a pas arrêté de changer de mal en bien. En fait, il a démontré plus que, tu sais, hors de tout doute, qu'il change de mal en bien. Et l'ultime démonstration de ça, c'est la croix. La croix, c'est la vie qui supplante la mort, qui supplante l'indépendance mensongère de l'arbre de la mort. Et là-dessus, j'ai une application toute simple. Es-tu fatigué de te battre ou de te débattre pour essayer, et je dirais en vain, en parenthèse, de faire sortir du bien des mauvaises situations, des mauvaises relations, et d'éviter à tout prix le mal? C'est fatigant, là. Comme contrat, là. Qui ici qui a essayé de prendre le contrat? OK, moi, là, je vais essayer le plus possible de faire le bien puis d'éviter le mal. Oh, man, c'est épuisant, c'est... Puis c'est parce qu'on aime Dieu, là. C'est fatigant, mais savez-vous quoi? Hey, écoutez bien. C'est surtout... C'est d'abord et avant tout le rendez-vous de 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, mon enfant. Tu as vu comment t'es essayé, tu as vu comment c'est fatigant, tu as vu comment que c'est un contrat qui est impossible à honorer. Mais moi, je suis capable. Ça revient à ce que je disais tantôt. Quand on apprend à dépendre de Dieu, à s'attendre à lui, sa grâce est suffisante. Il est là exactement au moment où est-ce qu'on en a besoin. Et savez-vous quoi? La simple voie au repos de Dieu, au soulagement de la fatigue spirituelle qu'on peut avoir en essayant comme ça de vaincre le mal, de rechercher le bien, la simple solution, c'est simplement la reconnaissance de la foi. Espérer dans la bonté de Dieu, de connaître à nouveau, de goûter encore comment le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, on va voir ça dans un message plus tard. Mais goûter, c'est drôle, comment quand ça parle de la bonté de Dieu, ça touche à tous nos sens. Ça dit, voyez comment l'Éternel est bon, sentez comment il est bon, puis même goûtez comment il est bon. Sur la bonté de Dieu, là, je vous dis, là, c'est le psaume 34, puis c'est cité dans 1 Pierre, ça fait appel à tous les sens. C'est comme si la bonté de Dieu, là, on peut avoir l'expérience totale. De comme, wow, de tous mes sens, de tout mon être, je peux goûter comment Dieu est bon, je peux le sentir, je peux le voir. Il y a quelque chose de là-dedans qui nous dit que vraiment c'est la solution complète à notre situation dans ce monde déchu. C'est simplement la bonté de Dieu, la reconnaître, de dire « Dieu, t'es bon, c'est ma valeur refuge, tu es mon refuge et c'est mon repos. » Je vous l'ai dit, c'est ça que le Seigneur m'a ramené simplement dans la prière, c'est ce qui a donné naissance à ce message-là. Il y avait des choses, j'ai passé dans mon cœur, puis Dieu m'a dit « Attends un peu là, t'as-tu oublié que j'étais bon? » Oups, ouais Dieu, j'avais oublié à quel point t'étais bon, puis je peux te faire confiance là-dedans. C'est dur des fois de voir comment Dieu est bon quand on voit quelqu'un se détruire, quand on voit quelqu'un s'égarer, quand on voit des gens faire du mal. Dieu est bon? Ben, si Dieu révèle le mal, est-ce que c'est pas bon ça déjà en partant? Dieu est toujours bon. Puis Dieu, oui, il laisse aller le mal. Puis il a permis à Satan de toucher Job, d'enlever sa famille puis tout ça. Mais c'est dans sa bonté qu'il faisait ça. Dieu, il n'a pas arrêté d'être bon, là, en faisant ce qu'il a laissé faire avec Job. Donc, cette reconnaissance de la bonté de Dieu, c'est l'antidote à l'indépendance charnelle. On dit, hein, ça fait plusieurs fois qu'on parle, comment que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mais ce qui va me motiver à ça, ce qui va nourrir cette foi-là, c'est de voir que Dieu est bon. Que ma chair, là, Dieu n'a pas besoin, là, il est bon, là, puis j'ai juste à y faire confiance. Là. C'est à ça que l'esprit me ramène constamment. Et pensez-vous, là, tu sais, quand on va dans Genèse au chapitre 3, là, quand on va dans le premier chapitre de la Genèse, là, c'est des choses fondamentales de la vie. Puis, tu sais, si Dieu veut mettre sa bonté de l'avant en partant, là, pensez-vous qu'il veut la ramener dans nos vies à tous les jours? Ses bontés se renouvellent à chaque jour. Ce qu'on voit là, c'est fondamental. Dans le psaume, là, c'est ce qui est ramené constamment. Il arrive toutes sortes de choses dans la vie, mais Dieu est bon. Sa miséricorde durera toujours. Dieu, il n'arrête pas de bosser. C'est à ça qu'on s'accroche. Et voici sur quoi je veux terminer. Regardez le contraste entre les versets 38 et 39-40. Verset 38 dit, « Il est béni, ils deviennent très nombreux, il ne diminue point leur bétail. » Hey, wow, tout est beau. Mais au verset 39, « Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur de la et la souffrance. Il verse le mépris sur les grands, il fait errer dans des déserts sans chemin. » Il y a un contraste ici. Et c'est là-dessus que je conclue, c'est le contraste de deux voies. De deux réactions, deux points tournants, où est-ce que la différence elle, se joue à ceci, simplement invoquer Dieu, source de bonté? C'est quoi qui va faire que je m'envoie sur une voie de destruction, une voie d'égarement, versus une voie de construction, une voie de bénédiction? C'est me tourner vers Dieu, dans ce que Dieu permet qu'il arrive. C'est pas plus compliqué, là. C'est pas une formule, c'est pas une affaire à faire, c'est une personne vers qui se tourner, en qui se confier. Dieu qui est bon. C'est la différence entre les deux. On n'a pas besoin d'être intelligent, pas besoin d'être instruit, on a juste besoin de connaître celui qui est bon. Invoque-moi et je te répondrai. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, comment je vais faire pour savoir la bonne voie, puis comment où aller, puis hein, cette voie-là, ça a donc bien de la bonne, ça doit pas être bon. Comment je fais pour faire la différence, puis c'est tous des fardeaux inutiles à se mettre sur les épaules. Dieu, je ne sais pas, je me tourne vers toi. Moi, j'ai rien que je peux faire, mais je me confie en toi, qui toi est capable d'intervenir et de faire ce qui est bon dans cette situation parce que c'est que tu es Dieu, tu es bon. Et donc, c'est comme ça qu'on rencontre Dieu. Dans ce qu'il nous envoie, on l'invoque. Puis là, on va pouvoir le découvrir. Découvrir le Dieu qui nous envoie. Oui, il envoie des malheurs. Ça dit ça dans la Lamentation de Jérémie. Dieu envoie les malheurs. Il n'est pas l'auteur du mal, mais il dit « OK, là, c'est le temps que j'envoie un refoulement d'égout chez un frère, une sœur bien-aimée. Ouais. » C'est poche, hein? Mais c'est Dieu qui l'a permis. Puis Dieu, il est bon. Puis Dieu fait quoi de bon avec ça? C'est pour sa gloire. Parce que Dieu les aime, puis il les rencontre là-dedans. Vous savez pourquoi? Ils vont se réjouir avec nous. On prie pour eux, puis on n'est pas « Ah, c'est le fun! » Non, c'est plate, l'événement. Mais nos yeux regardent sur celui qui transforme le mal en bien. On a sujet de se réjouir parce qu'on sait que Dieu va faire de quoi de bon là-dedans. Amen?
Oui, amen.
Et donc, vraiment, c'est ça toute la différence. Invoquer Dieu. Et c'est ça qu'il veut faire avec chacun ici. Je ne sais pas ce que chacun traverse. Moi, il y en a que j'ai une idée, il y en a qui m'ont partagé des choses. Mais vraiment, la question ce matin, c'est est-ce que je vais faire confiance à Dieu avec ce qu'il m'envoie? C'est juste ça la question. Je vais-tu faire confiance, puis là, disons-le, à sa bonté? Je vais-tu faire confiance du fait que, à cause que Dieu est bon, là, je peux l'invoquer, puis il va s'occuper de tout. Moi, je vous dis, j'ai trouvé ça très effrayant, cette prière-là, par bout. Hey, Dieu, là, tu vois que ça peut déraper, puis là, wow, ça arrive dans les brancards, puis là, il y a ci, puis il y a ça, puis ah, comment ça va virer tout ça? Des fois, hein, ça, disons que, tu sais, dans une game d'hockey à troisième période, des fois, on est en prolongation, là, puis là, hey, coudonc, comment ça va finir, cette affaire-là? Dieu, il va s'occuper de ses enfants. Il ne va pas nous laisser tomber. Et donc, est-ce que tu veux voir Dieu le reconnaître au-delà de la mort, de l'échec, de la déception de ta situation et de tes relations? Si tu veux le voir, tu as juste à l'invoquer. Dieu, je veux te voir aller, je veux voir ta bonté, manifeste ta bonté. Et peut-être qu'il y en a ici ou des gens qui écoutent en ligne qui ne connaissent pas ce Dieu. On dit au Québec une expression, puis ils disent ça aussi, c'est même la façon qu'ils appellent Dieu en Haïti, le bon Dieu. Ben, c'est une bonne expression parce que Dieu est bon, puis c'est le bon Dieu. Je veux dire, il n'y a de bon que Dieu seul. Mais Dieu, il sauve le malheureux dans sa misère. Dieu nous pousse dans ses bras à travers l'adversité, à travers des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire passer de la mort à la vie, de la destruction à la rédemption. Dieu est celui qui sauve. Écoutez ce que ça dit dans Actes, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Je relis Romains 2, verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le salut vient de l'Éternel. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il permet au mal qui arrive dans notre vie pour qu'on se tourne vers lui et qu'on le connaisse. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, c'est le moment de vous tourner vers lui dans la simplicité de la foi en Jésus, son œuvre parfaite et accomplie. Et pour les enfants de Dieu, vous savez, la mort de nos circonstances, de nos projets, de nos plans, de nos ambitions nous pousse à la vie des projets de Dieu, de ce que lui a fait, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et là, écoutez bien. Là. Arrêtez d'essayer d'infuser de la vie. Ça, c'est épuisant. Là. Arrêtez d'essayer d'infuser de la vie dans ce que Dieu veut faire mourir. Pensez à cette phrase. C'est ma dernière phrase. Arrêtez d'essayer d'infuser de la vie de... Infuser. Là, je vois Josiah qui me regarde, puis il se demande c'est quoi le mot « infusé ».
C'est comme dans le café.
« Comme le thé, là.
Hein? C'est quoi le mot? «
Stream »
Stream? Ouais. Arrêtez d'essayer d'infuser de la vie, de mettre de la vie dans ce que Dieu veut faire mourir. Dieu veut qu'on fasse confiance à sa bonté, que lui, il va ramener la vie. Si Dieu veut que ça meure, là, laisse-le mourir. Ah, mais Seigneur, c'est donc bien une bonne idée. Savez-vous que la chair a des bonnes idées? Laissez-la mourir. Dieu, là, il est vivant. Là. Puis il est bon. Là. Dieu veut que vous fassiez confiance. Ça, là, je veux que tu laisses ça mourir complètement. Puis pourquoi? Dieu peut le ramener à la vie. Mais si c'est pas bon, Dieu va le laisser mourir. Mais si c'est de Dieu, il va le ramener à la vie. N'est-ce pas ce qu'il faisait avec notre père dans la foi, Abraham? Il avait des bons désirs. Ah, Dieu, tu m'as fait des promesses. C'est le fils Isaac. Puis là, il y a eu la promesse, puis waouh, il y a tout ça, puis là, il y avait sûrement des projets, puis tout ça, puis Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Donne ton fils, ton unique. Tu sais, puis il souligne, là, ton fils, ton unique, là, en voulant dire, le fils de la promesse, puis c'est quoi qu'il faisait? Il fait exactement ce dont on parle ce matin. Essaye pas de donner de la vie à ce que moi, je veux faire mourir. Puis ici, il y avait tellement plus que Isaac, parce qu'on sait Isaac, physiquement, il n'est pas mort, là, Dieu il a gardé la vie, mais tu sais, tes ambitions, tes plans, ce que toi tu veux, là, tes pensées, là, Abraham, là, laisse ça mourir. Moi, j'ai des voix qui ne sont pas tes voix. Puis Dieu a ramené la vie. Dieu a fait un œuvre de grâce dans la vie d'Abraham et d'Isaac, cette journée-là, dont on bénéficie encore aujourd'hui, parce que ça fait partie du plan rédempteur de Dieu. Pas pour rien que ça dit que c'est notre père dans la foi, parce qu'il y a un pattern qui est là, qui à travers la souffrance, la mort, ça l'a produit la vie. Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Merci Seigneur qu'on peut tout abandonner en tes mains à cause que tu es bon. Et Seigneur, on ne veut pas essayer. On abandonne nos tentatives d'essayer. On n'est pas des créateurs. On ne peut pas donner la vie à ce qui est mort. Puis on ne peut pas garder en vie ce qui est vivant. Seigneur, c'est toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante. On dépend totalement de toi. Donc, Seigneur, avec ce que tu nous envoies, on veut répondre simplement par la foi. Et oui, Seigneur, on a besoin de se repentir de notre orgueil et notre incrédulité qui, trop souvent, on te le confesse, Seigneur, nous font prendre les choses en main. Nous font nous prendre pour Dieu. On le reconnaît, on le confesse, Seigneur, et on te remercie que ce matin, on peut se reposer dans ta bonté. On peut se réjouir en toi. On peut se reposer parce que tu es le Dieu qui change le mal en bien. Tu es le Dieu qui est tellement souverain que tu es capable de faire tout concourir pour le bien de ceux qui t'aiment. Et donc, Seigneur, on te bénit aujourd'hui de ce que tu es bon. Et c'est notre repos, c'est notre joie, c'est notre paix. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prier.